Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Bâti Radio pour ce tout nouveau numéro de pionniers de la ville durable où nous allons tout de suite recevoir Olivier Ortega. Bonjour Olivier.
Bonjour Kenza.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci. Très heureux de reprendre le fil d'une vie normale.
Effectivement, on est très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes avocat associé pour Lex City. Avant d'expliquer justement le contenu de notre entretien, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que c'est que Lex City, nous faire une présentation succincte de vous-même et de la société que vous représentez ?
Alors moi je suis avocat depuis 25 ans maintenant, j'ai fait ma carrière dans des grands cabinets d'avocats d'affaires et il y a 3 ans, je me suis demandé comment rendre plus visible et plus facile à diffuser la pratique que nous souhaitions développer ensemble au sein de mon équipe, qui est celle du bâtiment et de la ville durable. Mmh. Et donc on s'est dit que de se loger dans une structure un peu atypique, et peut-être que je pourrais expliquer pourquoi elle est atypique,
bien sûr,
était probablement une idée qui était cohérente avec le contenu des dossiers qu'on traite, puisqu'on est un peu sur les dossiers émergents de quartiers durables, de villes durables, qui eux-mêmes sont un peu atypiques, puisqu'on essaye de croiser dans ces quartiers de la technologie, du développement durable, de la mixité sociale et toute une série d'autres choses. Et donc, on est allé au bout de ce concept. Et par exemple, pour donner une illustration concrète, on est un des premiers cabinets, je pense, à s'être domicilié dans un coworking et non pas, comme ça se fait beaucoup à Paris, dans un bel immeuble avec des moulures au plafond, pour être en phase avec le contenu de ce qu'on fait. Voilà, c'est un exemple. Alors, dans le coworking, on est dans des bureaux évidemment séparés parce que comme avocat, on tient à notre déontologie,
bien
mais il n'empêche qu'on est dans un écosystème où on croise des acteurs émergents, des start-up, des équipes, des SMH de grands groupes. Et voilà, on est dans cet écosystème qui fait la ville de demain et, par exemple, proche des tiers-lieux. Et c'est très bien comme ça, on en est très content.
Alors, quand on parle, Olivier, de bâtiment de demain, qu'est-ce que ça veut dire plus particulièrement ?
Alors aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir participé à ce moment-là une quinzaine de projets assez emblématiques de bâtiments et de villes durables. Alors quand on dit ville durable, c'est un peu une commodité de langage parce qu'aujourd'hui, plus personne ne construit une ville en entier. C'est des morceaux de ville, c'est des quartiers, c'est des îlots.
Qu'on réhabilite, effectivement.
On réhabilite ou qu'on construit de zéro. Par exemple, on a travaillé sur un projet à Lyon Confluence, où c'était un quartier qui était une friche industrielle et qui a été construit aujourd'hui, avec aussi un bout de rénovation, c'est vrai. Donc on dit que c'est de la ville durable. Alors ce qui est intéressant, c'est que on voit que depuis 5 ans maintenant que se développent ces quartiers-là, la pratique de marché évolue.
Oui.
Et donc ce qui est commun à tous ces projets, c'est une espèce de brique énergétique. Tous ces quartiers ont une ambition d'efficacité énergétique assez forte, assez élevée. Et puis ensuite, par type de projet, viennent se greffer d'autres volets que l'efficacité énergétique, qui peuvent être la mixité des usages. Alors, bureau, logement, commerce, ça c'est presque toujours la règle, puisque comme on est sur des quartiers de grande taille, j'ai dit macro-lot, en gros c'est de 50 000 à 200 000 mètres carrés. Forcément, il y a une mixité, mais ça fait une mixité au sein d'un ensemble d'immeubles, par exemple, jeunes et seniors, de la mixité entre l'activité artisanale et puis des bureaux plus traditionnels. Voilà, ça c'est un deuxième volet. Puis avoir un volet biodiversité, agriculture urbaine qui existe. Peut avoir un volet sur des espaces partagés avec des grands parcs communs ouverts au public. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en France, en tout cas, la ville qui se construit n'est pas une ville ségrégée, comme disent nos amis anglo-saxons. Elle est ouverte sur la ville, il n'y a pas de couture entre visibles. Et donc, clairement, ce ne sont pas des villes fermées au milieu de la ville. Vous passez d'un morceau de ville dite durable à la ville qui existait avant, sans vous en rendre compte, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc on travaille sur ces innovations-là, qui sont des innovations alors parfois techniques. Pour faire de la géothermie en ville, il peut y avoir une innovation technique, mais très souvent des innovations d'usage, des innovations sociales ou sociétales, et qui appellent un traitement en général contractuel pour être sûr que, qui est très intelligemment conçu au départ, dure dans le temps et que les équipements partagés, je pense par exemple au tiers-lieu, ne deviennent pas au bout de 4 ans un magasin d'optique ou une agence bancaire, parce que il y a une rentabilité qu'on trouve pas dans un espace destiné à accueillir les familles, une salle de cinéma, de la culture ou je sais pas quoi d'autre.
Alors justement, Olivier, c'était ma prochaine question, puisque clairement, on a compris que vous pratiquez donc depuis des années des contrats de performance énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce type de contrat justement contribue à la transition énergétique et écologique de l'immobilier, et surtout comment, quand vous dites qu'il faut que tout cela évolue avec le temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi ?
Oui. Alors j'ai eu la chance d'être missionné par Jean-Louis Borloo en 2010 pour écrire un rapport officiel sur les contrats de performance énergétique. Je l'ai remis en 2012 à Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque le ministre avait changé entre-temps.
Oui.
Et l'idée était de développer un outil contractuel nouveau qui permette de sécuriser les économies d'énergie. C'est-à-dire que contrairement à un contrat classique qu'on passerait avec un opérateur énergétique, l'opérateur ne doit pas une obligation de moyens. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que un professionnel normalement avisé devait faire, mais une obligation de résultat.
Mmh.
Non seulement j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je vous garantis que le résultat sera là. Et si le résultat n'est pas là, je vous indemnise pour le préjudice que vous subissez du fait de la non-atteinte de la performance contractuelle. Donc ça veut dire en clair que si on vous dit que vous ferez des économies d'énergie, vous les ferez soit dans la vraie vie, et c'est ce qui est évidemment recherché en premier lieu, soit au travers d'une indemnisation pour les dépenses d'énergie que vous auriez dû économiser. Donc c'est un outil très intéressant, parce que si je le dis autrement, il permet de capter et de valoriser un flux d'économie, c'est-à-dire un flux financier négatif, puisque là on économise une dépense, il permet de la valoriser et de la sécuriser, de la garantir dans le temps. Au passage, c'est un moyen d'aligner de manière objective les intérêts microéconomiques des acteurs, vous et moi, si dans notre logement on passe un CPE, la foncière pour le CPE qu'elle passe dans ses bureaux. Donc ça permet d'aligner les intérêts de cet acteur microéconomique-là avec les intérêts macroéconomiques de l'État, puisque faisant baisser les consommations d'énergie des intéressés et donc au total de l'État français, eh bien on fait baisser les consommations d'énergie globale et donc tout ce qui va avec, les émissions de gaz à effet de serre, le carbone qui est généré, voilà. Donc c'est une manière, je trouve, de faire de l'écologie très rationnelle, où on aligne les intérêts de celui qui passe son petit contrat et les intérêts de l'État, ce qui était une logique très Grenelle de l'environnement de l'époque.
Alors justement, vous préparez actuellement pour Construction 21 un dossier spécial sur le financement de la transition des villes et des territoires avec le cabinet de conseil Greenflex. Quels sont pour vous les principaux leviers ?
Alors, votre question est très juste, c'est que ce qui existait il y a quelques années aujourd'hui doit être revu parce que le marché avance et il avance même assez vite. Et donc le fait de remettre sur le chantier des sujets qui ont pourtant déjà été explorés. Moi, j'ai fait, pour le plan bâtiment durable, un rapport avec Inès Reilman sur les financements innovants de l'efficacité énergétique. Je crois que ça devait être autour de 2014. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et on a plein de choses nouvelles qui sont apparues. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans ce dossier, alors pour l'instant, ce que je vous dis sont les pistes, puisque le dossier il est
va
évoluer,
en construction évidemment.
Et il ne sera livré qu'en fin d'année avec les contributions.
Oui.
Mais c'est d'essayer de distinguer trois grands axes, les leviers de décision. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un acteur décide de passer à l'acte et de ne plus parler de l'efficacité énergétique, mais d'en faire. Comment ça se passe? Et alors évidemment, la situation elle est très différente, suivant qu'on parle d'un ménage dans son logement, d'une entreprise dans ses bureaux, d'un centre commercial, d'un commerçant indépendant, etc. Donc on va essayer de faire un peu le clair et de faire le tour des différents leviers, des différents déclencheurs du passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'on y va? Alors il y a plein de choses. Évidemment, on va parler des signaux réglementaires, puisque c'est évidemment une manière de pousser le marché à faire, notamment quand on est dans une logique d'obligation ou d'interdiction de commercialisation, par exemple, de logements qui seraient considérés comme non décents, les fameuses passoires thermiques. C'est ce qui est dans la loi énergie résilience d'août dernier. Donc ce signal, il existe là. Vous savez qu'il y a un projet dans l'Union européenne de taxonomie verte, ce qui fait que les investisseurs vont avoir un classement de leur type d'investissement. Et donc, évidemment, en termes d'indices, de verdissement de leur activité, ça va avoir un effet. Bon voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont nouveaux et qui sont les déclencheurs. Ça, c'est le premier grand axe de ce dossier. Deuxième axe, plus attendu et plus prévisible, c'est de faire une espèce de catalogue et de panorama des différents outils financiers qui existent, que ça soit le marché carbone, le leasing et le crédit bail dans la transition énergétique.
Oui, parce qu'il y a tellement de choses, effectivement.
Voilà. Donc là, on aura un nombre d'articles. C'est un dossier qui va regrouper une petite trentaine d'articles quand même. Donc là, on a beaucoup d'articles qui vont essayer de prendre les sujets les uns après les autres. Les certificats d'économie d'énergie, enfin, je pense que là, il y a une place.
Il y a de quoi faire, oui, effectivement.
Il y a de quoi faire, voilà. Et puis, un troisième volet sur les recettes de valorisation qui sont aussi un moyen de concourir à la transition écologique, puisque on peut aussi tirer au moment de la rénovation, de l'amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, on peut tirer des recettes qui n'existaient pas avant et qui vont permettre soit de couvrir le financement de la rénovation, ça c'est le schéma idéal, soit plus raisonnablement d'optimiser le coût net puisque ça va générer une nouvelle recette. Typiquement, c'est quand on densifie un immeuble en le surélevant par exemple d'un ou deux étages, est-ce qu'on ne peut pas dire que le produit de cette surélévation est affecté prioritairement à la rénovation de ce qu'il y a en dessous, et éventuellement de trouver un mécanisme de fiscalité intéressant pour pousser les propriétaires d'immeubles vers ça. En clair, la plus-value ou la sur-valeur générée par la densification ou la surélévation, elle pourrait être moins taxée, pas taxée, dès lors qu'elle est affectée à la rénovation du reste. Voilà, c'est toute une série d'exemples de cette nature-là qu'on va essayer d'aborder dans cette dernière partie du dossier.
Eh bien, Olivier, je vous propose peut-être de venir, peut-être quand le dossier se terminera, pour venir nous en parler, ici, sur Bâti Radio, ça vous dirait ?
Très volontiers.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange, Olivier Ortega. Je rappelle que vous êtes avocat associé pour Lexity. Merci encore.
Merci, Kenza.
Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.